Spotkania europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Bonjour, bonsoir, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Dans quelques heures, 147 chefs d'État et de gouvernement vont se donner rendez-vous au Bourget, au nord de Paris, pour la COP21, la conférence de Paris sur le climat. Objectif de cette réunion qui prendra fin le 11 décembre, sceller un accord universel qui limiterait à 2 degrés le réchauffement de la planète d'ici la fin du siècle. Et le succès est loin d'être acquis. De toutes les régions du monde, l'Europe est probablement celle qui a pris le plus tôt le problème du changement climatique à bras le corps. Elle atteindra ses objectifs 2020 de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. L'Union européenne, qui est le premier contributeur du financement climatique, se pose en bon élève de la COP21. Elle attend un accord contraignant sur le climat avec un objectif à long terme. Mais l'Europe est-elle si exemplaire qu'elle le prétend? Nos invités vont nous le dire. Bonjour Yannick Jadot.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputé Europe Écologie Les Verts. Vous êtes, dit-on, le grand spécialiste à EELV de la COP21.
Merci.
En tout cas, vous avez écrit un livre récemment. Il est sorti il y a quelques mois. Climat, la guerre de l'ombre. Il est édité au Passage clandestin. Stéphane Aykut, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un chercheur allemand qui travaille en France au LISIS, mais qu'est-ce que c'est que ce LISIS ?
Le LISIS, c'est un laboratoire de l'Université Paris-Est qui s'occupe des questions sciences-société au sens large.
C'est-à-dire, par exemple, les questions d'environnement ?
Par exemple, les questions d'environnement, d'agriculture, de biodiversité.
Mais pas seulement.
Mais pas seulement.
Thomas Pellerin-Carlin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en politique européenne de l'énergie à l'Institut Jacques Delors, que l'on connaît bien dans cette émission. Alors, avant de débuter notre débat, avec vous, Maria Fonso, quelques éléments sonores pour comprendre à quel point c'est important, difficile et incroyablement complexe d'agir sur le climat.
Au niveau mondial, l'Union européenne arrive en troisième position parmi les pollueurs avec 9% des émissions de gaz à effet de serre. Après les États-Unis à 11% et la Chine qui, elle, est responsable de 25% des émissions annuelles. Néanmoins, l'Union européenne a été l'une des premières parties à publier sa contribution à la COP21. Une contribution qui constitue une exception car elle n'est pas nationale, mais elle est commune aux 28 États membres. Ils se sont donc engagés à réduire d'ici à 2030 d'au moins 40% leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Et l'Union européenne s'est fixé des objectifs plus ambitieux encore pour 2050. En effet, elle vise une réduction des émissions de CO2 de 80 à 95%. Écoutons la déclaration de François Hollande en mars dernier sur la signature de la contribution de l'Union européenne à la COP21 Paris Climat.
Je remercie l'Europe d'apporter la première, sa contribution pour la conférence de Paris sur le climat, contribution qui marque les engagements de l'Union européenne pour parvenir aux objectifs que nous voulons porter le monde entier au mois de décembre à Paris. Très heureux que ce soit l'Europe qui ait déjà montré l'exemple. Merci. Merci beaucoup. Thank you very much.
Mais entre les déclarations et les actions, l'Europe peut parfois manquer de cohérence.
Quand l'Union européenne annonce la diminution de 40% de ses émissions de CO2, elle semble oublier qu'elle subventionne l'industrie du charbon à hauteur de 10 milliards d'euros par an. C'est une étude de la Fondation Heinrich Böll et de l'ONG Les Amis de la Terre intitulée Atlas du charbon qui affirme qu'entre 1990 et 2007, l'Union européenne a dépensé 200 milliards d'euros dans le secteur du charbon. En Allemagne, où le charbon reçoit chaque année 3,7 milliards d'euros d'investissement public, mais aussi en France où l'on accordait encore il y a peu de temps des aides de l'État aux industriels comme Alstom, qui installait des centrales à charbon en Chine par exemple. Pour Ségolène Royal, ministre de l'écologie, il s'agit d'être logique avec les ambitions pour le climat et peut-être de changer les mentalités des entreprises.
Ce que j'ai proposé d'ailleurs à Alstom, c'est que les aides de l'État qui étaient données pour le charbon lui soient données pour investir dans les énergies renouvelables. Il faut mettre de la cohérence, il faut mettre des règles, il faut remettre de l'ordre dans tout ce qui est le désordre lié à maintenant quelque chose dont on est sûr, que l'on connaît, qui encore il y a quelques années était contesté, c'est que les activités humaines qui ont utilisé ou qui utilisent du pétrole et du charbon produisent des gaz à effet de serre, qui produit le réchauffement planétaire, qui produit des catastrophes naturelles et des catastrophes liées à ces pollutions. Et par conséquent, nous devons impérativement changer de mode de développement. Et changer de mode de développement, c'est aussi une chance à saisir parce que ça crée des activités, des emplois et aussi de la santé.
La COP21, c'est d'abord un enjeu climatique pour les habitants de la planète, mais qui donne lieu à un affrontement politique entre l'Europe, les États-Unis et les pays émergents. l'argent, sans oublier bien sûr les énormes implications économiques. Mais c'est aussi, comme vient de le dire Ségolène Royal, l'occasion de changer nos modes de développement et donc nos modes de vie. Alors Yannick Jadot, à quelques heures de l'ouverture de cette conférence, on sent une effervescence tout de même. Mais comment résumer en quelques mots l'état d'esprit des participants? Est-ce qu'il y a une volonté d'aboutir ou pas?
Il y a, je crois, de plus en plus un sens des responsabilités. La science nous alerte de manière extrêmement forte, de manière extrêmement ferme, sur le fait que le statu quo nous emmène dans un chaos climatique qui bouleverseront l'ensemble de nos sociétés, au-delà de bouleverser toutes les conditions de vie sur Terre. Donc on a la science qui affirme, on a de l'autre côté des technologies qui sont aujourd'hui disponibles. On a par exemple depuis la grande conférence de Copenhague, qui était un fiasco mais qui est le souvenir de l'opinion publique mondiale de ces grandes conférences des Nations Unies il y a 6 ans, depuis le prix du photovoltaïque a été divisé par 4. Donc on a des conditions qui ont évolué, qui sont favorables à l'action des États. On a besoin de l'action des États parce que les États sont responsables encore très largement des choix en matière énergétique, en matière de transport, en matière agricole, en matière de déforestation. Mais en même temps, il y a aujourd'hui, du côté des États, au fond, un retard sur l'économie qui avance, sur la société, sur les citoyens qui aimeraient agir beaucoup plus vite. On sent, dans ce moment de crise économique, sociale, forte au niveau mondial, on sent plus de conservatisme que, au fond, d'ambition à changer notre modèle de développement. Et comme le disait, au fond, Ségolène Royal, aujourd'hui, lutter contre le dérèglement climatique, c'est créer des emplois locaux, c'est aménager les territoires, c'est des emplois non délocalisables, c'est de l'activité de petites et moyennes entreprises, donc c'est des services publics, donc c'est de la culture, donc c'est de la démocratie. Mais au fond, les États restent malheureusement trop souvent aujourd'hui entre l'épicentre, j'allais dire, des stratégies de lobby, des lobbies les plus puissants de la planète, c'est-à-dire les lobbies des énergies fossiles, pétrole, gaz, chimie, automobile, qui au fond, eux, sont totalement dépendants du carbone aujourd'hui et qui ont terriblement du mal à vouloir changer de modèle parce que ce sont des milliards et des milliards et des milliards de dollars auxquels on leur demande finalement de renoncer. Parce que lutter aujourd'hui sérieusement contre le dérèglement climatique, limiter à 2 degrés le réchauffement de la planète, c'est laisser 80% des réserves de pétrole, de gaz, de charbon dans le sol. C'est demander à toutes ces industries aujourd'hui ultra puissantes de renoncer au fond à ce qui est estimé, je vais pas donner beaucoup de chiffres, mais 27 000 milliards de dollars de revenus. Donc on leur dit, lutter contre le dérèglement climatique, c'est pour vous faire une croix sur 27 000 milliards de dollars de revenus. Donc ces industries font une pression maximale aujourd'hui sur les États, au fond, pour dire il faut agir, mais agissons lentement, et ça, ce serait une catastrophe.
Alors, la COP21, c'est 10 000 négociateurs, on a un peu de mal à imaginer comment ça peut se passer, 10 000 personnes réunies en un lieu, même si le Bourget, c'est très vaste. Stéphane, écoute, la COP21, mode d'emploi, comment ça se passe? Les pays arrivent donc avec des propositions.
Oui, absolument. Donc, ces négociations, elles ont une histoire, bien évidemment. Ça se passe depuis les années 90 qu'on négocie sur ces choses-là. Nous en avons d'ailleurs retracé l'histoire dans notre livre « Gouverner le climat ». Donc, 20 ans, 25 ans en fait, aujourd'hui, qu'on est dans ces négociations.
C'est Kyoto, hein.
Le point de départ, c'est la convention climat de Rio de Janeiro en 92. Ensuite, Kyoto est important puisque c'est le premier traité international qui assigne des objectifs de réduction chiffrés aux pays développés. Et donc, c'est une certaine façon de traiter ce problème qui disait il y a un objectif de réduction, on se met d'accord sur un objectif de réduction au niveau global, on le partage ensuite entre les pays, c'est ce qu'on appelait le partage de fardeau. Cette façon de traiter le problème, elle s'est cassée la figure, si j'ose dire, à Copenhague en 2009, et aujourd'hui, on est dans une autre approche qu'on peut appeler de différentes façons, on l'a appelée par le bas, et donc, où les pays mettent sur la table des contributions nationales volontaires. Dans le jargon, ça s'appelle les INDCs, Intended Nationally Determined Contributions. Alors, quand vous regardez ce mot, chaque partie, chaque mot, au fait, indique le contraire à un engagement ferme. Ça veut dire que c'est intentionnel. Ce sont des contributions déterminées au niveau national. Donc, ce ne sont pas des engagements. Il n'y a rien de contraignant dans ces engagements-là.
Hein.
D'où l'importance aujourd'hui, une des choses qui est discutée dans ces négociations et qui est extrêmement importante, c'est les questions premièrement de transparence et deuxièmement ce qu'on appelle les questions de revoyure, au fait qu'on se rencontre tous les 5 ans par exemple pour rehausser les ambitions, puisque on sait aujourd'hui, au fait, il y a une chose qui est positive, on sait qu'aujourd'hui plus de 160 pays ont mis sur la table leur contribution nationale, cela couvre plus de 90% des émissions mondiales. Or, ce qui est aujourd'hui sur la table n'est pas suffisant. Vous avez dit, Yannick Jadot l'a rappelé, 2 degrés, c'est l'objectif qui est fixé par la communauté internationale. Aujourd'hui, on serait, selon les calculs, à 2,7 ou 3 degrés. Et j'ajouterais...
Et ça change beaucoup. 1 degré, ça change beaucoup.
1 degré, ça change beaucoup. Ça change beaucoup au niveau de... Entendons-nous bien, 2 degrés au niveau mondial. Déjà, ça peut vouloir dire 4 degrés, 6 degrés à certains endroits de la planète. On voit déjà aujourd'hui des effets du réchauffement climatique en termes d'événements extrêmes, en termes de sécheresse, etc. 1 degré, ça change beaucoup. Et surtout, je dirais, ce qui est encore plus important, aujourd'hui, dans ces contributions, il n'y a rien de contraignant. Et donc, c'est des annonces de politique publique. Et donc, ce qui est essentiel, c'est d'avoir un levier pour les sociétés civiles nationales pour contrôler ces engagements. Et donc, d'où ces questions d'une part de revoyure à la hausse et d'autre part de transparence. Il faut absolument que dans les négociations aujourd'hui, il y ait un mécanisme qui assure la transparence de ces engagements pour que les Français puissent tenir pour responsable leur gouvernement, les Allemands tenir pour responsable leur gouvernement, les Chinois, pareil.
Alors, on comprend mieux que ça dure pratiquement 15 jours et qu'il y ait 10 000 personnes. Ça va négocier dans tous les sens à partir de demain au Bourget.
Ça va négocier dans tous les sens. D'ailleurs, il y a beaucoup d'autres sujets encore qui sont traités, les questions de financement, les questions d'adaptation, etc. On peut y revenir. Et vous imaginez bien que dans ces négociations-là, ce ne sont pas tous les délégués qui prennent la parole tout le temps. D'ailleurs, même pas tous les États. Il y a des groupes d'États aujourd'hui qui structurent ces négociations. L'Europe, par exemple, parle d'une voix. 28 pays.
Là encore, on va y venir.
On va y venir. Les pays en développement, pendant très longtemps, se sont réunis sous la bannière au fait du G77 plus Chine, qui regroupe pas 77, mais beaucoup plus de pays aujourd'hui. Ensuite, il y a des petits groupes de pays comme les AOSIS, au fait, qui sont très importants, puisque c'est les petits pays insulaires qui disent, nous, on va disparaître.
C'est là qu'on retrouve les Maldives, c'est là qu'on retrouve...
Exactement, le Tuvalu et des pays comme ça. Donc, au fait, il y a des groupes de pays qui prennent la voie ensemble et qui essayent de faire avancer leur position. Donc, le groupe d'Afrique, par exemple, les questions d'adaptation, les questions de pertes et dommages qui viennent aujourd'hui. Le groupe Europe, plutôt, les questions d'intégrité environnementale, on veut un traité fort, contraignant, etc. Et ainsi de suite.
Alors, Thomas Pellerin-Carlin, je l'ai dit en introduction, l'Europe, c'est le bon élève de la COP21. Rappelons, par exemple, l'objectif 2020, l'année 2020 de l'Union européenne en la matière. 20% de diminution des gaz à effet de serre, 20% d'énergie renouvelable et 20% de baisse de consommation d'énergie. Ce qui fait de l'Union européenne un bon élève a priori, elle est toujours, il faut parler d'un bon élève au passé, au présent, au futur.
Disons que c'est un assez bon élève et ça va un peu dépendre de, disons, quelle discipline vous allez garder. Si vous regardez par exemple la réduction des émissions de gaz à effet de serre en Europe, qui est l'indicateur principal, l'Europe est un des meilleurs élèves qu'il y a au niveau mondial. Par exemple, l'objectif pour 2020, comme vous l'avez mentionné, c'est une baisse de 20%. Aujourd'hui, en 2014, on était à moins 23%. Donc l'objectif pour 2020 a déjà été atteint aujourd'hui pour l'Union européenne. Après, si vous regardez les questions de financement, là aussi l'Union européenne est un excellent élève parce que on cherche à lever 100 milliards d'euros par an à partir de 2020.
Alors effectivement, donc pourquoi on cherche à lever 100 milliards d'euros par an à partir de 2020 parce que évidemment le nerf de la COP21, ça va être l'argent pour aider les pays en voie de développement, entre autres, à financer leurs programmes de réduction de gaz à effet de serre, entre autres.
Je dirais pas que c'est forcément le nerf, mais c'est un élément très important de la COP21, c'est indéniable. Sur l'argent qui a déjà été donné aujourd'hui, ce qui a déjà été donné à ce fonds vert, on n'a que 4 milliards, et quasiment l'intégralité de cet argent vient de l'Union européenne et des États membres. Par contre, là où l'Union européenne est, disons, pas un très bon élève, c'est lorsqu'on regarde les émissions de consommation, c'est-à-dire pas uniquement celles qui sont produites en Europe, mais celles qui sont produites par les biens qui sont consommés en Europe. Donc, par exemple,
c'est l'idée que, comme il y a de moins en moins d'usines en Europe, on fait venir de Chine, entre autres, voilà, des produits, et en gros, on exporte, on délocalise aussi nos pollutions.
C'est ça. Alors, c'est pas forcément délocalisé. Parfois, c'est des nouveaux produits, comme par exemple nos téléphones qu'on dit intelligents. Ce sont des téléphones qui ont été produits généralement en Asie, en partie en tout cas. Et la pollution chinoise qui a permis de produire notre téléphone, est-ce que c'est la pollution chinoise ou est-ce que c'est la pollution européenne? Si vous considérez que c'est la pollution chinoise, l'Europe est une bonne élève. Si jamais vous considérez que c'est une pollution européenne, dans ce cas-là, en fait, vous voyez que les émissions européennes sont à peu près stagnantes. Donc, on n'a pas véritablement baissé depuis 1990.
Alors, Yannick Jadot et Stéphane Écoute l'évoquaient. L'Europe est arrivée avec un mandat de négociation unique au nom des 28 pays. Est-ce que ça veut dire pour autant que l'Europe parle d'une seule voix ?
C'est toujours difficile parce que à la fois effectivement l'Europe parle d'une seule voix dans la négociation, mais comme c'est un grand rendez-vous diplomatique, ça vous a pas échappé que évidemment les discours autour de l'environnement et autour du climat depuis la Maison Brune, nous regardons ailleurs, sont des moments évidemment de communication politique. Donc ça avait été un des grands échecs de l'Europe à Copenhague, c'est-à-dire qu'on avait Nicolas Sarkozy, Gordon Brown à l'époque pour la Grande-Bretagne, Angela Merkel qui déjà faisait un peu la course à l'échalote sur celui qui allait ou celle qui allait sauver le climat en premier. Et ça avait beaucoup déstabilisé l'Europe qui, au fond, à ce moment-là, en 2009, on regardait, l'Europe a regardé les États-Unis et la Chine se mettre d'accord entre eux. Et Obama, à Copenhague, est parti de la conférence en disant « j'ai un accord avec la Chine, y compris avec l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil. Et au fond, je peux partir avant même que l'Europe » et valider cet accord-là. Donc ça, c'était un révélateur extraordinaire du déplacement du centre de gravité des pouvoirs dans ce monde, de l'Europe vers les États-Unis et l'Asie.
Parce que Mais quand on dit que Copenhague a été un échec, c'était surtout un échec pour les Européens.
Ça a été un échec pour le climat, pour tout le monde. Parce que quand il n'y a pas d'accord fort qui engage les pays sur la transition énergétique, la lutte contre la déforestation, sur un autre modèle agricole, c'est d'abord la catastrophe pour, notamment dans les pays du Sud, mais tous, je veux dire, pour les villes qui sont sur le littoral, pour les producteurs de vin, pour tout le monde. Faut voir, tout à l'heure, vous posiez la question, Daniel Ezekiel, sur 2-3 degrés, qu'est-ce que ça change au fond, un seul degré ? On est déjà 1 degré. C'est déjà extrêmement difficile. 2 degrés, c'est 30% de rendement en moins dans les céréales en Afrique qui va doubler sa population. C'est exactement les mêmes chiffres pour le Moyen-Orient. De 2007 à 2010, en Syrie, on a eu une sécheresse extraordinaire, l'épuisement des nappes phréatiques, 1,3 million de déplacés en Syrie. Je ne dis pas que c'est la cause de tout, je dis que c'est un facteur éminemment aggravant. Et si on va au-delà de 2 degrés, aller à 2 degrés, ce sera déjà un bouleversement. Au-delà de 2 degrés, vous savez, 80%, 90% des grandes villes dans le monde sont sur le littoral. L'élévation du niveau de la mer, les cyclones, les vagues submersions vont totalement perturber notre façon de vivre. Donc c'est un enjeu absolument essentiel. Et là-dedans, l'Europe a une responsabilité majeure parce que, au fond, historiquement, c'est l'Europe qui croit au multilatéralisme. L'Europe a toujours été un leader dans le multilatéralisme. S'il n'y a pas l'Europe, on sait bien qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les États-Unis qui vont prendre le leadership sur le climat, y compris Obama est bien coincé aujourd'hui avec son congrès républicain, dont une partie est climato-sceptique. C'est pas la Chine qui va vouloir mettre en place des disciplines communes à l'échelle internationale. Donc, il faut que ce soit l'Europe. Mais c'est vrai que si l'Europe continue aujourd'hui incontestablement à assurer un leadership sur l'architecture de la négociation, les responsabilités, les disciplines, tout ce qui fait que ça sera un peu crédible et transparent, l'Europe n'a plus le leadership qu'elle avait dans les années 2000 sur la transition énergétique, parce que c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'Europe est en crise économique, que l'industrie du gaz, du charbon et du pétrole a été ces dernières années un acteur très puissant pour contraindre toutes les réglementations européennes à la baisse. Vous le disiez, l'Europe a atteint largement ses objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020, au fond aujourd'hui sans effort. C'est ça qui est problématique, c'est qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Mais elle réduit. Et la France et la Grande-Bretagne ont saboté totalement l'ambition européenne sur les énergies renouvelables parce que vous avez GDF Suez, Total, British Petroleum, Shell qui ont dit « mais si vous mettez des renouvelables dans les tuyaux de l'électricité à l'échelle européenne, c'est moins de chiffre d'affaires pour nous. Donc vous nous remettez en cause alors qu'on a fait depuis un demi-siècle les politiques énergétiques ensemble. »
L'Europe est-elle le bon élève de la COP21 ? On va faire une petite pause sur RFI, le temps de prendre connaissance des dernières infos. RFI, la radio de l'Europe et du monde. À tout de suite.
Carrefour de l'Europe sur RFI.
Europejskie.
Kruzymion tu d'Europa.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquelles.
Rebonjour, rebonsoir. Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Dans quelques heures, 140 chefs d'État et de gouvernement vont se donner rendez-vous au Bourget, au nord de Paris, pour la COP21, la conférence de Paris sur le climat. Objectif de cette réunion qui prendra fin le 11 décembre, sceller un accord universel qui limiterait à 2 degrés le réchauffement de la planète d'ici à la fin du siècle. Le succès est loin d'être acquis. De toutes les régions du monde, l'Europe est probablement celle qui a pris le plus tôt le problème du changement climatique à bras le corps. Elle atteindra ses objectifs 2020 de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'Union européenne, qui est le premier contributeur du financement climatique, se pose en bon élève de la COP21. Elle attend un accord contraignant sur le climat avec un objectif à long terme. Mais l'Europe est-elle si exemplaire qu'elle le prétend? Je vous représente rapidement nos invités. Yannick Jadot, eurodéputé Europe Écologie Les Verts. Son dernier livre, Climat, la guerre de l'ombre, a été édité aux Passagers clandestins. Stéphane Aykut, chercheur allemand, mais qui travaille en France au LESI, sous le laboratoire interdisciplinaire de sciences, innovation et société. Le dernier livre auquel il a participé, c'est un livre collectif, Stéphane. 20 ans de négociations internationales aux éditions de Sciences Po, 20 ans de négociations autour du climat, gouverner le climat. Et puis Thomas Pellerin-Kerlin, chercheur en politique européenne de l'énergie à l'Institut Jacques Delors. Mais avant de retrouver nos invités, nous allons faire un détour par la rédaction de Courrier International, partenaire historique de Carrefour de l'Europe. Bonjour Daniel Renon.
Bonjour Daniel.
Si la COP21 est d'abord la conférence des chefs d'État et de gouvernement, vous nous rappelez via un article du quotidien berlinois Tageszeitung que la défense de l'environnement et la lutte contre le changement climatique, c'est aussi, et peut-être d'abord, le fait des citoyens.
Exactement. Il a pris une expérience qui se mène actuellement dans une forêt, dans la région de Cologne, où des écologistes se mobilisent contre l'exploitation d'une forêt vieille de 12 000 ans, quelque chose comme ça, qui recèle donc des arbres séculaires et une biodiversité énorme. Et donc, ces militants se mobilisent contre l'exploitation d'une mine de charbon à ciel ouvert que mène le géant de l'énergie RWE.
Et évidemment, le combat est relativement inégal entre, d'un côté, cette grande société allemande RWE et puis les citoyens, des écologistes, mais pas seulement.
Exactement. C'est évidemment un conflit déséquilibré, mais quand même, la Tageszeitung souligne que cette forêt remplit tous les critères de la directive européenne Habitat, Faune et Flore, qui vise à maintenir ou rétablir la biodiversité dans l'Union européenne et qui a été adoptée en 1992 lors du sommet de la Terre de Rio de Janeiro. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des instances européennes sur lesquelles on peut s'appuyer. Et puis la mobilisation elle-même, il y a beaucoup de gens, des dizaines de militants qui sont en permanence sur le site, qui sont généralement des habitants des environs, qui veulent défendre leur site et le millier d'hectares qui reste actuellement de cette forêt qui en a fait 5000. Donc ils défendent un petit bout restant de cette forêt.
Et c'est un combat qui dure déjà depuis 3 ans et qui n'est pas fini au moment où s'ouvre la COP21.
Exactement, c'est une alternance en fait d'occupation et d'évacuation du site par la police depuis 3 ans. Mais on peut espérer que la COP21 va aider les militants. Et par exemple, je vais vous donner une information qui est tombée aujourd'hui. Le groupe Alliance, par exemple, vient de décider de ne plus octroyer d'investissement dans les entreprises qui exploitent le charbon, notamment RWE.
Stéphane, écoute, le charbon, c'est l'ennemi?
Absolument. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne, c'est extrêmement intéressant. Et c'est intéressant, au-delà des discours parfois qu'on entend ici et là sur l'Allemagne, c'est très intéressant aujourd'hui de regarder ce pays. Pourquoi? Parce que ce qu'on voit aujourd'hui s'organiser et se passer en Allemagne, pour moi, et je l'espère, c'est l'équivalent de ce qui s'est passé il y a 30 ans, il y a 40 ans, avec les occupations de sites, etc., avec un mouvement social, au fait, qui s'organise contre le charbon, comme celui qui s'était organisé contre le nucléaire.
Il faut dire que les Allemands étaient particulièrement en pointe contre le nucléaire.
Les Allemands étaient particulièrement en pointe, mais au fait, on oublie souvent qu'il y avait des très grands mouvements sociaux, aussi en France, mais pour des raisons diverses qui n'ont pas abouti. Ben, pour venir sur cette question de l'Allemagne et du charbon, aujourd'hui, qu'est-ce que ce tournant énergétique allemand, qu'est-ce qu'il a démontré au fait? Il a démontré qu'il est possible pour la plus grande économie européenne, pour une économie qui tire toute sa force de sa compétitivité, de l'exportation, de sortir d'une technologie énergétique qui faisait 40% de son bouquet électrique. le nucléaire. Il est possible d'en sortir. Il est intéressant de regarder...
Ça, c'est l'initiative, en tout cas la décision d'Angela Merkel en 2011.
Ça, c'est déjà beaucoup avant. Ça, c'est déjà la décision du gouvernement Schröder en 2000. Donc, au fait, le tournant énergétique allemand est beaucoup plus vieux. Et d'ailleurs, on peut retracer ses origines encore plus loin dans le temps, puisque les subventions aux renouvelables, c'est dans les années 90 qui sont décidées. Donc, au fait, ce qui est intéressant aussi, c'est quels sont les outils qui ont été mis en place. Aujourd'hui, on parle, par exemple, pour le climat, on parle du marché de carbone, on parle de la nécessité de mettre un prix sur le carbone, ce qui est vrai, ce qui est nécessaire. Mais là, ce qu'on voit dans cet exemple précis, c'est un mix très très classique d'instruments politiques qui sont un calendrier échelonné de fermeture des centrales, d'une part, des subventions pour les alternatives, d'autre part. Et je pense que c'est extrêmement intéressant et extrêmement important quand on discute aujourd'hui de la question du charbon et de la question du changement climatique. On ne peut pas attendre, par exemple, circulent des idées d'avoir un prix carbone au niveau mondial et des choses comme ça. On ne peut pas l'attendre. Aujourd'hui, pourquoi pas prendre cet exemple allemand et vraiment poser la question de la fermeture de centrales de charbon, et c'est d'ailleurs une des discussions qui est en cours en Allemagne. Il y a une première tranchée, donc 8 centrales au fait qui vont être fermées. Le vice-chancelier allemand Sigmar Gabriel l'a annoncé, donc avec des compensations pour les industries concernées, on peut trouver ça bien ou pas bien, mais c'est un premier pas vers une alternative où on va dire cette technologie d'énergie, cette source d'énergie, faut en finir. Et on vous donne un calendrier, comme ça il y a une visibilité pour les industriels et une visibilité pour les citoyens.
Thomas Beltrin-Carlin, est-ce que l'Allemagne est en train de réussir sa transition énergétique, ce fameux mix qu'évoquait à l'instant Stéphane Ecout, avec historiquement beaucoup de charbon, pas mal de nucléaire et très peu de renouvelables? Il y a eu d'énormes investissements en matière de renouvelables en Allemagne, il suffit de survoler un petit peu n'importe quelle partie de l'Allemagne et on voit forcément un moment où l'avion atterrit des champs d'éoliennes à peu près partout. Est-ce que l'Allemagne est en train de réussir sa transition et est-ce qu'elle peut être un exemple pour l'Europe et pour les autres pays européens? On va parler des autres pays européens qui sont aussi en grande difficulté de ce côté-là.
Alors, pour l'instant, l'Allemagne est en train de réussir. Après, ce qu'il faut prendre en considération, c'est aussi le coût financier que ça entraîne. Le tournant énergétique allemand coûte entre 20 et 25 milliards d'euros par an aux contribuables allemands. Donc après, c'est une question politique. Est-ce qu'il vaut mieux mettre cet argent sur le développement des énergies renouvelables ou sur, au choix, l'éducation, l'armée? Enfin, c'est un choix que les citoyens doivent faire. Donc, ensuite, est-ce que l'Allemagne est un exemple à suivre? Il faut véritablement penser à un système, notamment au niveau électrique, un système européen. Aujourd'hui, si l'Allemagne réussit à avoir un système électrique stable, c'est parce qu'elle est connectée avec les autres Européens. Que pour l'instant, elle n'est pas capable d'envoyer de l'électricité, en tout cas insuffisamment d'électricité, de la mer du Nord, où sont les éoliennes, vers la Bavière, au sud de l'Allemagne, où il y a de la consommation et aussi des fermetures de centrales. Et pour l'instant, il passe en partie par les réseaux allemands, en partie par les réseaux polonais et tchèques. De même, lorsqu'on pense véritablement au niveau européen, un des grands problèmes des énergies renouvelables, c'est la variabilité. C'est-à-dire que quand vous avez beaucoup de vent, vous avez beaucoup d'électricité. Quand vous n'avez pas de vent, vous n'en avez pas. Un moyen de gérer ça, c'est avoir un marché électrique véritablement intégré au niveau européen, car ça vous permet d'avoir déjà toujours un minimum d'électricité sur le réseau, parce que vous avez toujours un peu de vent quelque part en Europe. Et aussi, ça vous permet de connecter les grandes batteries qui existent déjà, qui sont en fait les montagnes. On a du mal à stocker l'électricité, par contre, on peut très bien stocker l'eau. Et donc, on stocke l'eau quand il y a du vent, et quand il n'y a pas de vent, bah, l'eau passe à travers les barrages et on donne de l'électricité. Donc, du coup, il y a des leçons à prendre, disons, du tournant énergétique allemand, mais il faut véritablement le penser au niveau européen. Ça aidera les Allemands à effectivement réussir leur transition énergétique, et ça permettra aussi à l'Europe de bâtir une transition énergétique intégrée.
Alors, j'adore. Je m'adresse à l'eurodéputé d'Europe Écologie Les Verts. La nécessité de penser l'énergie et le changement climatique au niveau européen s'impose. Thomas Pellerin-Carlin vient de nous l'expliquer. Et alors, est-ce que c'est compréhensible par tous les pays européens? Je pense à la Pologne qui est encore plus dépendante du charbon comme l'est l'Allemagne et qui n'a pas vraiment engagé, elle, cette transition énergétique.
C'est vrai que il faut se souvenir, en fait, ce que signifie socialement et culturellement et donc politiquement une énergie. Le charbon, faut se souvenir que c'est en Europe, autour du charbon, que s'est construit le mouvement syndical. C'est une puissance sociale, culturelle et donc politique extrêmement forte. La plupart du temps, au fond, le charbon était une énergie locale. On produisait dans son pays du charbon pour son pays. Il y a eu, et c'est ça qu'on voit aujourd'hui en Pologne, il y a un attachement social à une énergie parce que ça a un sens dans la construction politique du pays. C'est être mineur. Même les chansons dans le Nord, autour des mines et du charbon, restent des chansons qui sont chantées aujourd'hui, parce que le métier de mineur était un métier d'une brutalité, d'un coût sanitaire considérable.
Et qui a généré tellement de solidarité.
Mais c'est un métier qui a une valeur culturelle et sociale extrêmement forte. Bon. Et donc, on a aussi ce débat-là en Pologne. Le pétrole est l'énergie de la mondialisation. C'est l'énergie des dictatures. C'est, que ce soit le pétrole ou le gaz, la Russie, l'Arabie Saoudite, tout le Proche-Orient, le Moyen-Orient. Donc, au fond, c'est plus du tout la même signification. Et ce qui est intéressant aujourd'hui avec les énergies renouvelables, au-delà du fait que la priorité doit toujours être arrêter le gaspillage, renforcer l'efficacité énergétique, c'est qu'on est dans une nouvelle révolution qui n'est pas la révolution du mouvement social syndical, qui est au fond une révolution citoyenne. C'est-à-dire que ce qu'on a en Allemagne, au Danemark, ailleurs, ce sont essentiellement des coopératives de citoyens qui s'organisent ensemble et à l'abri des grands groupes énergéticiens construits sur la rente, la centralisation, et qui font au niveau des citoyens des territoires les réponses, qui construisent les réponses à leurs besoins énergétiques. On a au fond des citoyens, des habitants qui se mettent ensemble, ils décident de consommer moins, donc ils règlent tous les problèmes de gaspillage, d'isolation, des logements et tout ça, et c'est bon pour la facture de l'énergie, on le sait. Mais en plus, ils se mettent ensemble pour dire produisons, utilisons une énergie propre, et cette énergie-là, on va la partager. Faut réaliser au fond le caractère totalement révolutionnaire de ce nouveau système énergétique. C'est-à-dire que on a d'un côté dans le vieux monde des énergies, on l'a dit, sales, centralisées, gérées par des oligopoles de production avec des géants qui fonctionnent sur la rente, qui fonctionnent sur l'opacité, qui fonctionnent en soutien à des dictatures le plus souvent, et de l'autre côté un modèle décentralisé avec des technologies aujourd'hui, que ce soit l'éolien terrestre, le photovoltaïque, qui sont totalement accessibles, qui sont compétitives, au-delà de la géothermie, de l'eau, de la biomasse, qui ne sont pas des énergies renouvelables intermittentes, donc ça fait l'équilibre. Et ce sont des citoyens qui s'organisent pour la partager. C'est de la démocratie, c'est du partage et c'est de l'activité économique locale. Et c'est là où l'exemple allemand est très fort. Parce qu'au fond, la relance ces dernières années du charbon est plus liée à l'effondrement du prix du charbon qui a remplacé le gaz en Allemagne et pas la sortie du nucléaire. Mais on est véritablement sur aujourd'hui un système qui est fort parce que c'est là que la responsabilité des États est forte. Pas tant pour dire en permanence aux citoyens ce qu'il faut faire, mais aujourd'hui pour les laisser s'emparer de projets d'énergie dont ils ont envie. Au fond, arrêtons de subventionner les énergies fossiles, vous l'avez dit, le charbon, le pétrole, le gaz. On a aujourd'hui, à l'échelle mondiale, 650 milliards de dollars de subventions publiques sur des énergies qui nous détruisent la vie.
Et on a vu que c'est en train de changer, c'est l'illustration de ce que disait Ségolène Royal dans la première partie.
C'est en train de bouger. Essentiellement, c'est-à-dire c'est plus un mouvement des citoyens aujourd'hui, ce qu'on appelle la campagne sur le désinvestissement.
Financer le charbon, c'est plus tendance.
Puis surtout, c'est une catastrophe pour tout le monde. Enfin, faut voir les dégâts causés par les énergies fossiles.
C'est plus tendance politiquement, je veux dire.
Ça n'est plus tendance politiquement. Ça reste la réalité des États, malheureusement. Ça reste la réalité des États. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un mouvement citoyen, un mouvement des banques, parce que c'est un risque financier aujourd'hui de financer des énergies fossiles. Et on voit que ce qui se passe, c'est qu'on est dans ce moment de basculement dont je parlais un peu au début. Au fond, tout le monde se rend compte que ces énergies fossiles, c'est une catastrophe pour nos vies, notre santé, notre climat, que au fond, il y a tellement mieux à faire aujourd'hui du point de vue économique, social, démocratique, d'aménagement du territoire autour des économies d'énergie et des énergies renouvelables. Et c'est ça qui est fort.
Thomas Pellerin, Carlin, vous vouliez ajouter un mot?
Oui, juste une dimension toujours sur le charbon. Il ne faut pas investir dans le charbon tout simplement parce que ce n'est plus économiquement rentable. Quand vous regardez aux États-Unis le cours des entreprises charbonnières, il a été divisé par 5. Donc aujourd'hui, même économiquement, ce n'est pas intéressant.
C'est un peu ce que je disais, c'est pas tendance, quoi. Voilà. C'est plus tendance.
Mais pour des raisons, enfin, voilà, c'est des raisons comptables et économiques, pas
mais
pour
même
des raisons.
Le patron de la Banque d'Angleterre, c'est-à-dire, c'est pas un de Greenpeace, des amis de la Terre ou d'Europe Écologie des Verts. Il dit, il faut arrêter d'investir dans les énergies fossiles. C'est un risque financier aujourd'hui majeur, au-delà d'être une catastrophe pour nos vies.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, l'Europe est-elle à la pointe du combat à la veille de l'ouverture de la COP21? Nous sommes avec Yannick Jadot, eurodéputé Europe Écologie Les Verts, avec Stéphane Écoute, chercheur au LISIS, le laboratoire interdisciplinaire de sciences sociales et d'innovation, avec Thomas Pellerin-Carlin, chercheur en politique européenne de l'énergie à l'Institut Jacques Delors. Alors, les Européens imaginent volontiers le changement climatique ailleurs. Ça se passe en Asie, en Afrique, les tsunamis, les tornades, les typhons, la montée des eaux, la sécheresse et les cultures brûlées. Je ne sais pas qui veut rebondir là-dessus, mais c'est vrai que la notion de catastrophe climatique, c'est plutôt en dehors de l'Europe. Et c'est quand même pas si vrai que ça, Yannick Jadot.
C'est pas vrai du tout. C'est sûr que les coûts en termes de vie humaine, en termes d'impact sur l'économie, sur la société, sur la santé, sont beaucoup plus lourds au sud, à la fois parce que ce sont des écosystèmes parfois plus fragiles, et surtout qu'ils ont moins les moyens, au fond, d'y faire face. Mais on voit bien aux États-Unis la multiplication des phénomènes météo extrêmes, on voit la sécheresse en Californie, on l'a vu en Australie, on a vu toutes les inondations en Europe, y compris en France. Donc c'est toujours difficile de relier chaque phénomène météo extrême au dérèglement climatique, mais ce que dit la science, c'est que ces phénomènes météo extrêmes vont s'intensifier, ils seront de plus en plus violents et qu'on va avoir des gros problèmes en matière d'agriculture, en matière y compris d'alimentation, de disponibilité alimentaire. On va avoir des déplacements de climat du sud vers le nord, évidemment. On voit les poissons se déplacer, donc c'est un impact considérable qui va nous toucher aussi. Et ça nous renvoie, ce qui est extrêmement positif, c'est qu'on a une communauté de destin à l'échelle de l'humanité. On ne peut pas jouer les francs-tireurs dans cette affaire, et c'est ça qui doit aussi se passer à la COP21. Les États ne peuvent pas se dire « j'attends que les autres agissent, comme ça j'en ferai moins ».
Thomas Pellerin-Carlin.
Oui, le réchauffement climatique nous touche déjà en Europe. Aujourd'hui, la température la plus haute jamais enregistrée en Allemagne a été enregistrée cet été à 40 degrés. 40 degrés en Allemagne. Et ces vagues de chaleur qu'on a eues en Europe cet été, qu'on a connues en France, a aussi touché la Pologne. En Pologne, il y a eu des coupures d'électricité suite à la vague de chaleur, parce que vu qu'ils ont beaucoup d'électricité à base de charbon, vous devez refroidir votre centrale avec de l'eau que vous prenez dans la nature. Et vu que l'eau était plus chaude, et qu'il y avait aussi une grande demande d'électricité pour l'air conditionné en Pologne, il y a eu des coupures d'électricité qui ont touché les entreprises polonaises.
Puis il y a aussi des stations de sport d'hiver qui ont fermé en Italie, faute de neige l'hiver. Il y a eu des inondations un peu partout, en Grande-Bretagne par exemple, puis des oliveraies menacées en Espagne, un certain nombre de phénomènes qui, comme l'expliquait Yannick Jadot, prouvent que le changement climatique, ce n'est pas l'exclusivité des pays d'Asie et d'Afrique. Alors, Stéphane Écoute, l'Union européenne, je reviens à la COP21, entend avoir un accord contraignant. Ça veut dire quoi, un accord contraignant ?
On en a beaucoup parlé récemment, on se rappelle tous de la sortie de Kerry qui disait avec les États-Unis il n'y aura pas d'accord contraignant, avec la réponse de François Hollande qui disait il y aura un accord contraignant ou il n'y aura pas d'accord. Aujourd'hui c'est beaucoup un combat, un faux combat au fait pour moi, cette question de contraignant pas contraignant, même si, et je vais m'expliquer, certains éléments renvoient à des choses réelles. Donc pourquoi c'est un faux combat? Premièrement, disons, dans le droit international, contraignant ne veut pas dire la même chose que dans le droit national. Contraignant, le protocole de Kyoto, donc qui était le protocole qui régulait ces questions de changement climatique jusqu'ici, était un traité contraignant qui prévoyait des sanctions pour les pays qui ne respecteraient pas leurs engagements. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Canada a décidé de sortir du protocole de Kyoto et les États, l'Union européenne, d'autres États, etc., n'ont pas pris de sanctions. Donc, au fait, première leçon, contraignant en droit international ne veut dire contraignant que si les États sont prêts à appliquer ces contraintes, les sanctions. On voit un exemple qui est beaucoup cité, et je pense on a raison de le citer, c'est l'OMC. L'OMC a un organe, donc l'Organisation mondiale du commerce, a un organe qui est très peu connu à tort, qui est l'organe de règlement des différends, et qui, au fait, sur la base de la réciprocité, règle le respect des traités de l'OMC. Donc si un pays se sent lésé, il va devant cet organe de règlement des différends et qui va lui donner raison ou tort. Dans le cas du climat, aujourd'hui, ce qui est discuté, donc qu'est-ce qui sera contraignant, qu'est-ce qui ne sera pas contraignant, de façon très simple, les engagements des États ne seront pas contraignants, et ça tout le monde le sait et tout le monde est d'accord, puisque on n'obtiendra pas plus. On peut souhaiter plus, on peut demander plus, mais c'est dans les négociations aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui peut être contraignant dans ce traité encore? Et là, je reviens aux questions que nous avons abordées au début de l'émission. C'est les questions de transparence, les questions de revoyure. Donc, quand est-ce qu'on se revoit pour rehausser les émissions? Est-ce qu'il y aura, par exemple, une clause qui dit que, obligatoirement, tous les 5 ans, on revoit à la hausse, et on peut pas aller au-dessous de ce qu'on a proposé.
Revoir à la hausse les ambitions, hein,
les ambitions,
pas les émissions de gaz à effet de serre.
Bien sûr, ben c'est exactement ça l'enjeu. Donc ces choses-là peuvent être contraignantes. Et encore un élément, donc dans cette discussion avec Kerry et Yannick Jadot, en parlait tout à l'heure, il y a des lignes rouges de différents États dans ces négociations-là. Et pour les États-Unis, il est très clair aujourd'hui qu'un traité, quel qu'il soit, ne pourra pas passer par le Congrès américain. Je rappelle, le Congrès américain aujourd'hui est dominé par les républicains. Beaucoup d'entre ces républicains sont climato-sceptiques. De toute façon, tous sont opposés, et certains démocrates aussi d'ailleurs, à des traités internationaux dans cette matière-là. Et donc, il n'est pas possible de conclure un traité aujourd'hui sans les États-Unis sur ces questions-là. Cela ne veut pas dire que certains pays ne pourront pas aller plus loin dans leurs engagements.
Alors, impossible de conclure un traité sans les États-Unis, Yannick Jadot, mais sans la Chine non plus.
Sans la Chine, évidemment, sans l'ensemble, c'est ça à la fois la force et la faiblesse de la négociation des Nations Unies, c'est qu'en même temps, le Costa Rica s'exprime dans cette négociation après la Chine. Donc voilà, on n'est pas simplement dans un club de pays riches. Évidemment, ça dit pas la réalité des pouvoirs dans la négociation, mais c'est quand même, pour un sujet qui intéresse l'ensemble de l'humanité, c'est le seul système très insatisfaisant, mais c'est le seul système de démocratie mondiale qu'on ait aujourd'hui. Donc, il est essentiel qu'on ait cette négociation dans ce cadre-là. Mais c'est vrai que on voit bien à la fois la Chine qui aime tout sauf l'ingérence dans ses affaires internes. Donc au fond, ce qui pourrait être un peu contraignant décidé collectivement, c'est à la fois, un, faut pas dépasser 2 degrés. Ça paraît totalement fou de se dire que c'est encore en discussion, mais c'est encore en discussion, cet élément-là. L'objectif de long terme. Et qu'est-ce qu'on se fixe à 2050 ?
2 degrés
À la fin du siècle, mais c'est évidemment 2 degrés à la fin du siècle, doit être intégré totalement dans la décision qu'on prend demain pour renouveler nos infrastructures d'énergie, par exemple, nos infrastructures de transport. Tout ça, ce sont des décisions d'aujourd'hui qui vont avoir un impact pour 50, 60 ans. Donc c'est, est-ce qu'on est sûr qu'on est bien tous d'accord sur le fait que c'est 2 degrés, et évidemment avec les îles qui disent, nous on veut que reste dans l'accord la perspective d'agir beaucoup plus vite, parce qu'à 1,5 degré, nous on disparaît. Ce qui est totalement légitime, et à 1,5 degré, de toute façon, on va tous en prendre plein la gueule déjà. Et puis, effectivement, s'il n'y a pas de contraintes sur les engagements de chaque État, ce qui est quand même une faiblesse extraordinaire, parce qu'au fond, dans chaque accord de commerce, on met des contraintes, et quand il s'agit de sauver l'humanité et une bonne partie de nos écosystèmes, on ne veut pas mettre de contraintes. C'est quand même une faiblesse terrible. Mais c'est aussi, au fond, qu'est-ce qui est contraignant dans les mécanismes de transparence et d'évaluation de ce que fait chacun. Alors ça paraît totalement hallucinant, je pense, pour une bonne partie des auditeurs, mais il y a un peu cette idée que, au fond, aujourd'hui, si 100% des engagements volontaires sont appliqués, c'est 3 degrés. C'est inacceptable. On peut pas s'inscrire là-dedans. Mais si 100% est appliqué, et donc il faut déjà à ce stade-là avoir des systèmes qui mettent de la transparence, de la crédibilité, de la surveillance et des mécanismes de révision qui font que si les gens n'agissent pas, ils ont quand même une sorte de blâme dans la communauté internationale. Mais c'est vrai que on pourrait, avec tout ce qu'on a dit sur la transition énergétique, sur la mobilisation citoyenne et sur ce que dit la science, on pourrait obtenir beaucoup plus des États. Il n'est pas acceptable aujourd'hui qu'au fond, on va avoir demain 140 chefs d'État et de gouvernement qui vont dire à quel point il faut sauver le climat et au fond d'agir aussi peu, alors que ça pourrait être un très très beau projet de société de sortir du carbone.
D'un mot, quel serait un succès, quel serait un échec de la COP21, Yannick Jadot ?
Il n'y aura pas de succès. Pour moi, quand on est à 3 degrés de réchauffement climatique acté à Paris, ça ne peut pas être un succès au regard de ce que dit la science. Ça serait un demi-succès si au fond on arrive à garantir vis-à-vis des pays du Sud qu'on va les aider à s'adapter au dérèglement climatique et avoir un modèle de développement plus soutenable. Et ce serait un demi-succès si il y a l'obligation, y compris avant 2020, de réviser l'accord de Paris et qu'il y ait obligation de faire mieux à chaque fois. Parce qu'aujourd'hui, dans l'accord, c'est qu'il y a une obligation de pas faire moins. On est à 3 degrés et on se dit on se revoit dans 5 ans et vous ne pourrez pas faire moins. C'est totalement fou, à la vitesse où le climat se réchauffe, c'est totalement fou d'être encore sur ces équilibres-là.
Merci, merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Je rappelle, Olivier, Yannick Jadot, Climat, la guerre de l'ombre aux éditions Passagers clandestins. Stéphane Écoute, Gouverner le climat, 20 ans de négociations internationales au 13 de Sciences Po. Thomas Perrin-Carlin, pas encore de livre, hein. Mais ça va venir, je n'en doute pas.
Il y a plein de publications à l'Institut Jacques Delors.
Oui, il y en a plein, hein. Bon, qu'on retrouve sur le site Institut Jacques Delors. Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Nicolas Benita. Pour écouter cette émission RFI.fr, ou encore mieux les applis mobiles mais gratuites de RFI. Plus d'infos sur nos invités, sur leurs publications via la page RFI Carrefour de l'Europe, sans oublier les réseaux sociaux Facebook et Twitter pour rester en contact. Daniel Ezesca, où que vous soyez, à Paris, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Tout de suite, un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.